qui permettait à n'importe quelle cabronne de se payer n'importe quelle fille pour en faire sa pute, qui permettait à la dernière ordure humaine de s'offrir légalement une boniche bénévole, et qui plus est, garantie à vie. Au moins, quand t'es aux ordres d'un patron, t'es payé, putain. Ça me rend dingue, cette histoire, ça me rend dingue. Il soliloqua encore un bon moment, en arpentant la pièce que sa mère appelait abusivement le salon, donna un violent coup de pied à une chaise qui avait le tort de se trouver sur sa route, hurla « Me cago en Dios » en faire trembler les murs, dégringola 4 à 4 les escaliers de la maison, grimpa la calle del Sepulcro en maugréant je ne sais quoi, déboula à bout de souffle chez son ami Juan qui lisait un journal, s'en prit à ce dernier qui ne levait pas son nez de la page, puis s'en prit à son frère Enrique « Tu veux ma photo ?» puis à sa maquerelle de mère, qui n'était pas là pour lui répondre, puis à Franco, puis à Mola, puis à Sanjurjo, puis à Emiliano Astray, puis à Queipo de Llano, puis à Manuel Falconde, puis à Juan March, puis à Hitler, puis à Mussolini, puis à Léon Blum, puis à Chamberlain, puis à l'Europe entière, puis au salopard intégral qui avait pour nom Diego Burgos Obregón. Donne-moi une bière, Juan, por favor, avant que j'aille buter cette ordure. À Palma de Majorque, rien ne révoltait plus. Devant les meurtres par milliers, devant la barbarie effroyable, devant les tracasseries écœurantes imposées aux familles des exécutés, devant l'interdiction abjecte faite aux épouses de porter le deuil des fusillés, la population majorquine restait comme hébétée. « Il faudrait bien des pages, écrivit Bernanos, pour faire comprendre qu'à la longue, ces faits qui n'étaient mis en doute par personne ne soulevait plus aucune réaction. La raison, l'honneur les désavouaient. La sensibilité restait engourdie, frappée de stupeur. Un égal fatalisme réconciliait dans le même hébétement les victimes et les bourreaux. Bernanos découvrait, le cœur des faits, que lorsque la peur gouverne, lorsque les mots sont épouvantés, lorsque les émotions sont sous surveillance, un calme, hurlant, immobile s'installe, dont les maîtres du moment se félicitent. Le 10 novembre, une rencontre eut lieu entre les parents de Monse et ceux de Diego. Il s'agissait de fixer la date des noces et de décider de la dot, ma mère, la mienne très rachitique, ainsi que du contrat qui lierait les époux, que le père signa d'une croix. Monse, ce jour-là, fut au supplice, non pas tant par la perspective de sceller définitivement son destin, comme on eût pu le croire, que par la vision de ses parents, si gourds, si timides et si empruntés dans le salon luxueux des Burgos. Son père avait posé son béret sur ses genoux, découvrant un front blanc qu'une ligne nette séparait de la peau hâlée de son visage. Et il restait tout contrit sur sa chaise, tout empoté, ses gros souliers brillants posés l'un contre l'autre, le regard vacillant, désarmé, chien battu, malgré les « mettez-vous à l'aise » et les « pas de manière entre nous » réitérés de Doña Sol. Quant à sa mère, fluette, les yeux baissés, ses mains rouges nouées dans le creux de sa jupe noire, elle s'essayait à disparaître et y parvenait presque. Monse, silencieuse, regardait ses parents avec une méditative, une poignante intensité. Elle les regardait comme si elle les voyait pour la première fois, et elle se disait en elle-même « comme ils ont l'air modestes ». Leur visage, leurs mains, surtout leurs mains, les mains rouges de sa mère abîmées par les lessives et l'eau de Javel, et les grosses mains calleuses de son père aux ongles noirs de terre, leurs mains abîmées, leur geste gauche, cette façon de s'exprimer en s'excusant, leur petit rire étranglé, leur déférence excessive et leur remerciement qui n'en finissait pas, tout en eux reflétait la modestie de leur condition et l'héritage d'une pauvreté transmise intacte depuis des siècles. Et la pensée lui vint qu'elle était exactement à leur image. La pensée lui vint qu'elle aurait beau à l'avenir se maquiller.